pourrions lire d'abord dans le premier livre des rois. Chapitre 16. Versets 29 à 33. Et Achab, fils d'Omri, commença de régner sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Et Achab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et il arriva que, comme si c'était peu de chose, et qu'il marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et alla et servit Baal, et se prosterna devant lui, et dressa un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Achab fit une hachère, et Achab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. Chapitre 17. Et Élie le Tisbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant qu'il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Chapitre 18. Verset 17, fin du verset 16. Et Achab alla à la rencontre d'Élie, et il arriva que quand Achab vit Élie, Achab lui dit, est-ce bien toi, celui qui trouble Israël? Et il dit, je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as marché après les Baals. Verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. Et Achab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Et il dit à son jeune homme, « Monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. » Et il monta et regarda, et il dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Retourne-y sept fois. » Et il arriva qu'à la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. » Et il dit, « Lève-toi, dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et il arriva, en attendant que les cieux devinrent noirs par d'épais nuages, accompagnés de vent, et il y eut une forte pluie. Dans l'épître de Jacques. Chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous, et il pria avec instance qu'il ne plût pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, du verset 29 à 33 en particulier, il nous est parlé du règne d'Akab qui a duré 22 ans. Et il nous est dit que ce roi fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Plus que tout ce qui y avait été avant lui. Pendant 22 ans, nous voyons que c'est un roi qui a eu beaucoup de temps pour faire le mal. Il y a des rois qui ont fait des choses heureuses devant l'Éternel, mais qui ont vécu beaucoup moins longtemps. Et pendant le règne d'Akab, nous voyons qu'il a suivi un culte idolâtre, celui de Jéroboam. Il épouse une femme, Jézabel, sidonienne. Il va se prosterner devant les idoles, devant Baal. Et pour ce dieu, il va faire bâtir un autel et il va faire même bâtir un temple. Et nous voyons qu'il dresse même une ashère à une autre idole qui s'appelle Astarté. Et il va provoquer la colère de l'Éternel. Et nous voyons que Israël, pendant le règne d'Akab, était idolâtre, le nom de l'Éternel était déshonoré, et d'une telle manière que le mal s'étalait au grand jour, et que c'était un temps d'apostasie. C'est sans doute un des temps les plus sombres du peuple d'Israël, de la maison d'Israël. Il n'y avait pratiquement pas de lumière, ou la lumière était éteinte. C'est-à-dire que ce roi entraînait le peuple, un peuple qui était égaré, qui était opprimé, qui était malheureux. Et au chapitre 17, nous voyons là que l'Éternel va susciter un prophète tout à fait remarquable, c'est-à-dire que dans les temps les plus sombres, Dieu agit toujours en miséricorde pour son peuple, que ce soit pour le peuple d'Israël, que ce soit aujourd'hui, pendant la période de la grâce, la dispensation de la grâce, si nous ressentons notre faiblesse, eh bien, le bon berger, il est présent à côté de nous. Et dans un temps de grande faiblesse, nous allons voir peut-être que l'importance de la prière persévérante, la puissance de la prière persévérante. Et au chapitre 17, nous voyons la première apparition publique d'Élie. Avant ce verset, il ne nous est pas parlé d'Élie. Et nous allons voir que l'Éternel, dans le secret, a préparé son prophète. Et nous apprenons dans ce premier verset du chapitre 17, trois choses. La première chose que nous pouvons trouver comme enseignement, comme instruction, c'est que Élie, le Tisbite, eh bien, il peut dire « l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens ». Le prophète se tenait devant Dieu. Et non seulement, et à cause sans doute de cela, il se tenait devant Dieu, mais il recevait la parole divine, la communication des pensées de Dieu. Et nous voyons que l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui a dit que pendant plusieurs années, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à la parole du prophète. On a pu dire que Élie le Tisbite a été le prophète du jugement. Et pendant l'exercice de son ministère, je crois qu'il y a eu six miracles d'opérer. Enfin, c'est ce qui nous est consigné dans la parole de Dieu. Il y a eu six miracles consignés qui ont été faits par Élie le Tisbite. Élisée, qu'on a appelé le prophète de la grâce, qui lui a succédé, eh bien, douze miracles nous sont consignés dans la parole de Dieu. Voyons une différence. Prophète de jugement, six miracles. Prophète de la grâce, douze miracles. Et le troisième point, donc le premier point, le prophète se tenait devant Dieu. Il recevait la parole divine, la communication des pensées de Dieu. Et nous voyons que ainsi il vivait dans la dépendance de l'Éternel. Et pourquoi ? Nous allons le comprendre après, peut-être en lisant ce qui nous est dit dans l'épître de Jacques. Et ce qui est frappant, c'est le fait de se tenir devant Dieu. Est-ce que nous nous tenons devant Dieu, jour après jour ? Se tenir devant Dieu, c'est d'abord se tenir à l'écart du monde. Cela veut dire aussi d'être séparé du mal de ce monde. Est-ce que nous nous mélangeons à ce monde? Et est-ce que, en réalité, nous avons conscience de la présence de Dieu qui nous suit de ses yeux, qui nous voit, qui nous entend, qui nous sonde. Et un prophète de l'Éternel, eh bien, pour recevoir ses communications de la part de l'Éternel, eh bien, il fallait se tenir devant Dieu, devant l'Éternel. Cette expression, nous la retrouvons aussi concernant Moïse concernant Abraham, concernant Élisée, si nous avions le temps de chercher, nous trouverions que ces croyants, eh bien, ils se tenaient dans leur vie devant leur Dieu. Et la seule fois où Élie ne s'est pas tenu devant Dieu, eh bien, nous voyons que plus tard, il va faire une chute. Il va, un peu plus loin, penser qu'il était seul pour l'Éternel, alors que l'Éternel s'était réservé beaucoup d'hommes pour lui. Se tenir devant Dieu, c'est se tenir dans la lumière. C'est se laisser sonder par la lumière divine. C'est-à-dire, quand je lis la parole de Dieu, est-ce que je me tiens dans la lumière divine? Est-ce que cette parole, je la laisse me sonder à fond? Est-ce qu'elle me sonde, elle sonde mon cœur, elle sonde ma conscience? C'est cela, se tenir devant Dieu. C'est se laisser sonder par cette parole. Et quand nous nous laissons sonder par cette parole, la première chose qui devrait en être la conséquence, c'est d'être obéissant à cette parole, être soumis à cette parole. Et à ce moment-là, nous serons prêts à le servir. Et nous voyons que, au fond, la première chose pour servir, pour être un serviteur de Dieu, journalièrement, nous désirons tous sans doute servir le Seigneur, eh bien, c'est se tenir devant Dieu, nous laisser sonder par lui, par sa parole. Alors, dans l'épître de Jacques, chapitre 5 et verset 16. Pour ainsi dire, ce que nous avons lu dans le premier livre des rois, au début du chapitre 17, nous ne voyons rien des expériences secrètes du prophète. Et au fond, dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques va nous parler de l'intimité d'Élie avec son Dieu. Et cette intimité qui est nécessaire avant d'entrer dans un service actif pour Dieu. Et il nous rapporte sans doute les luttes et les combats intérieurs d'Élie à cause du triste état d'Israël. C'était un temps de pauvreté morale, on pourrait dire, et de disette spirituelle. Et le message que nous trouvons dans ce chapitre 5 de Jacques, c'est s'il y a une pauvreté morale autour de nous, si d'un point de vue spirituel il y a la disette, il y a la famine, eh bien la ressource du fidèle, c'est la prière patiente et persévérante. Non pas une, si nous pouvons dire, une prière de forme ou une prière vaine, non pas des redites, mais une prière fervente. Et nous voyons que l'apôtre emploie cette expression, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Nous sommes sans aucun doute dans un temps de déclin. Nous sommes sans aucun doute à la fin de la dispensation de la grâce. Et il y a des luttes et des combats dans nos familles, individuellement, dans l'Assemblée. Et l'apôtre, il nous dit ici, la fervente supplication du juste peut beaucoup. C'est-à-dire, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser aller. On a évoqué dans le cantique tout à l'heure, ou dans les deux cantiques, la faiblesse qui nous caractérise. C'est vrai ? Les deux ressources, c'est se tenir devant Dieu et savoir que la fervente supplication du juste peut beaucoup. C'est-à-dire une prière avec foi, une prière qui s'exprime mais qui sort de cœurs qui sont ardents pour Dieu. Et l'apôtre Jacques, il nous dit que Élie avait les mêmes passions que nous. C'est vrai. Mais il était juste. C'est-à-dire, il appliquait son cœur à marcher dans les voies de Dieu avec justice. Et c'est la fervente supplication du juste, non pas juste comme enfant de Dieu, mais aussi comme enfant de Dieu, mais à cause de notre justice pratique. C'est-à-dire que nous recherchions à plaire à Dieu en étant séparés de ce monde et du mal qui le caractérise. C'est la supplication du juste qui peut beaucoup. Et donc, nous voyons que Dieu écoute la supplication fervente, la supplication qui se répète jour après jour. Et nous allons voir un peu, en revenant peut-être dans le premier livre des Rois au chapitre 18, que Élie le Tisbite a prié. Et il a prié et il a insisté jusqu'à ce que Dieu réponde à sa prière. C'est une condition essentielle de marcher dans la justice afin que cette prière, cette supplication soit agréée par Dieu. Et nous savons avec certitude que Dieu répondra à de telles prières. Le début du verset 16 de Jacques 5 est dans un sens un peu surprenant. Il nous est dit de confesser donc vos fautes l'un à l'autre et prier l'un pour l'autre en sorte que vous soyez guéris. Deux points. La fervente supplication du juste peut beaucoup. On peut être un peu surpris en faisant le lien entre la confession des péchés, des fautes, l'un à l'autre, la prière, l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. Je ne sais pas si aujourd'hui la confession des fautes l'un à l'autre se pratique beaucoup. Mais l'apôtre ici nous dit, et c'est une exhortation qui est forte, de se confesser donc nos fautes l'un à l'autre, les péchés. dans la vie collective, il est facile d'avoir des paroles légères les uns vis-à-vis des autres, peut-être même quelquefois de la médisance. Je ne parlerai pas de calomnie, mais ça peut aller jusqu'à la calomnie. Et si ces choses ne sont pas confessées, eh bien, ça va être sans doute un poids dans l'Assemblée. Et est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas être attristé par de telles manifestations charnelles? Certainement. Et donc nous sommes exhortés ici à pratiquer cette confession des fautes l'un vis-à-vis de l'autre et de prier ensuite l'un pour l'autre. Le préalable, c'est la confession l'un à l'autre pour que la prière soit efficace. Et en sorte que vous soyez guéris de notre faiblesse, guéris de tellement de choses qui peuvent peser dans une assemblée, et à ce moment-là, ce préalable ayant été réalisé, l'apôtre nous dit, voilà, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Il y a des choses d'abord à régler et ensuite il y aura la puissance de la prière pour être guéri et pour justement pour que nous soyons écoutés par notre Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu entend les prières des saints et qu'il ne manque jamais de répondre à la foi de ses enfants. Et quel exemple d'Élie, il pria, verset 17, il pria avec instance qu'il ne plût pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Prier sans cesse, ne doutant nullement. Et quelle chose extraordinaire quand notre Dieu et Père répond à ces prières persévérantes. Donc juste dans le premier livre des Rois au chapitre 18. Verset 42, juste quelques mots peut-être sur Élie qui monte au sommet du Carmel et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Pourquoi cette chose nous est relatée? Que Élie est monté au sommet du Carmel et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Bien, le mont du Carmel, en haut, c'était un endroit calme. Et au fond, c'était un endroit où il n'y avait pas de distraction. Et la première condition, sans doute, quand on prie dans le particulier, c'est de trouver un endroit calme où nous n'avons pas de distraction, que nous ne soyons pas interrompus. Et de telle manière que nous pouvons prier avec, pourrions dire, concentration, en pensant à ce qu'on exprime à notre Dieu et à notre Père. C'est-à-dire, non pas des prières routinières. Et si nous souvenons que Élie le Tisbite a présenté une supplication, il a prié son Dieu, l'Éternel, avec persévérance, et il était en haut de cette montagne, le mont du Carmel, seul avec son Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a tellement de distractions autour de nous. Les smartphones, on est toujours dérangé, toujours des coups de téléphone, un SMS. La nécessité, l'enseignement que nous donne ici, c'est la nécessité d'avoir un moment ou des moments avec son Dieu sans distraction. C'est ça, se tenir devant Dieu, se tenir devant l'Éternel. Et nous voyons au fond que Élie, le Tisbite, qui était un juste, il pouvait élever des mains saintes vers son Dieu, selon l'expression de 1 Timothée. Et au verset 42, nous voyons que Élie, il met sa face, il se courbe jusqu'à terre et met sa face entre ses genoux. Et Élie était conscient de sa petitesse. C'était un homme, au fond, qui était très humble, et il se tient devant Dieu, à genoux, la tête entre ses genoux. Une expression, on pourrait dire, dans la Genèse, dans la bouche d'Abraham. Genèse 18, verset 27. C'est Abraham qui parle à l'Éternel. Et il dit, Abraham répondit et dit, « Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » Quel respect dans ce qu'exprime Abraham vis-à-vis de son Dieu, de l'Éternel. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Et Élie, nous le voyons qu'il se courbe jusqu'à terre et il met sa face entre ses genoux. Bien sûr, nous connaissons notre Dieu comme notre Père en Jésus. Mais il y a toujours des instructions dans l'Ancien Testament pour nous montrer l'indispensable révérence que nous devons avoir, même dans le privé, vis-à-vis de Dieu, quand nous sommes dans notre chambre, peut-être, quand nous prions individuellement ou peut-être aussi en famille, le respect qui est dû à Dieu. Et nous voyons que si ces choses nous sont rapportées dans l'Ancien Testament, il y a une leçon à tirer. Nous ne voyons aucune désinvolture. Hein, c'est pas un Dieu ami, c'est pas une façon légère de se tenir devant Dieu. mais se tenir devant Dieu avec respect, avec une grande humilité, et être conscient de notre petitesse. Et nous voyons que qu'Élie demande à son jeune homme de monter et de regarder du côté de l'ouest. Et donc, il lui dit « Lève-toi ». Et puis, il ne voit rien. Et puis, nous voyons la persévérance au mont du Carmel d'Élie. Et par cette fois, il dit à son jeune homme de monter et jusqu'à ce que le jeune homme voie un petit nuage. Et nous ne savons jamais quand Dieu va nous répondre. Mais il y a une heureuse persévérance. Et nous voyons que Élie le Thisbite avait demandé à l'Éternel qu'il pleuve de nouveau sur Israël. Et nous voyons que c'était une prière précise. Et il demande donc à l'Éternel qu'il pleuve de nouveau. Et Élie le Thisbite, il insiste. Ce sont des prières précises. C'est d'une grande importance de supplier notre Dieu par des prières précises, dans le particulier ou en assemblée. Si nous faisons trop de prières générales, nous ne saurons jamais quand c'est que Dieu va répondre. Et tandis que dans une demande précise, comme « Ami, prête-moi 3 pains », voilà une demande précise. Et nous savons, à ce moment-là, quand nous demandons 3 pains, eh bien, si notre Dieu va nous donner 3 pains. Mais si c'est des prières générales, peut-être nous ne verrons jamais ou pas souvent les réponses divines. La réponse de Dieu vient toujours en son temps, et quand elle arrive, si nous nous tenons près de Dieu, dans l'enseignement que nous donne le premier livre des Rois, ici au chapitre 18, c'est d'abord un petit nuage. C'est-à-dire, Dieu va nous donner dans notre vie un petit signe à un moment donné. Et si nous nous tenons près de lui, avec la condition morale qui est nécessaire, eh bien nous allons discerner que ce petit nuage ou cette chose qui va nous arriver, c'est un commencement de début de réponse de la part de Dieu. Et quand nous prions avec persévérance, en nous tenant près de Dieu, eh bien, faisons attention à tout ce qui va se manifester autour de nous, parce que Dieu va peut-être nous donner juste un petit signe avant de donner de gros nuages noirs et une grande pluie de bénédictions. Dieu commence par un petit nuage. Il ne va pas nous donner peut-être la réponse à nos supplications d'une manière extraordinaire tout de suite, mais la bénédiction va suivre sans doute les jours qui suivent. Élie le Thisbite nous donne les conditions morales dans lesquelles nous devons prier avec persévérance notre Dieu. Si nous sentons notre faiblesse, eh bien, nous savons que nous avons un Dieu qui nous écoute. Eh bien, prions-le avec foi, avec ses prières renouvelées jour après jour, dans le particulier, loin des distractions, et soyons attentifs aux réponses que Dieu ne manquera jamais de nous donner.
146. 146.